BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse, une planète B comme bourse pour votre argent. C'est une spéciale SpaceX cet après-midi. Ça y est, SpaceX fait ses premiers pas à Wall Street. On va en parler, on va regarder la tendance générale aussi, parce qu'il n'y a pas que SpaceX non plus. Antoine est avec nous, en fil rouge, Antoine Larigauderie. Rebonjour Antoine.
Rebonjour.
Votre mot du jour. D'accord.
Espace. Oui. Il faut faire de l'espace pour SpaceX. Le Nasdaq baisse de 0,57%, tiens d'ailleurs en ce moment. Plus 0,09% pour le Dow Jones. Le S&P 500 plus 0,02%. On attend donc toujours les premières cotations de SpaceX. Pour l'instant, on n'a pas de prix à l'affichage. Non, je vérifie là à l'instant en temps réel avec vous. $135 comme mise à prix. Les premières indications hors marché donnaient quand même du plus 29%. Avec un titre qui devrait ouvrir du côté des $168.
C'est ça, il y a tellement de demandes et d'offres sur ce titre qu'on n'a toujours pas la fixation définitive du prix là. Mais on l'attend, bien sûr, on est extrêmement curieux, mobilisé. On gardera dans les yeux tous les espoirs autour de SpaceX quand même, avec cette hausse attendue de quasiment 30% aujourd'hui, un marché adressable SpaceX de 28 000 milliards de dollars, selon Elon Musk en tout cas. Comment rendre tout cela tangible? On va vous mettre face à vous-même d'ailleurs, si vous voulez investir dans SpaceX. Vous vous mettez quand même entre les mains d'un seul homme, hein, le poids d'Elon Musk au sein de SpaceX. Mais ceux qui choisiront de ne pas y investir devront aussi justifier leur position, parce que SpaceX, ce sera la plus grande centrifugeuse à valeur du monde, sans doute. Des lanceurs spatiaux, des essaims de satellites avec Starlink, des data centers en orbite, de l'intelligence artificielle. Imaginez si tout cela finit par bel et bien interagir. Ceux qui décident de ne pas y investir aujourd'hui devront sans doute demain rendre des comptes si tout cela fonctionne. Mais ça reste un pari. Alors nos experts vont croiser le fer, comme on dit, on aura le feu et la glace, des avis à fond pour SpaceX tout à l'heure et des avis résolument contre. On aura les deux et on les confrontera, ils argumenteront. On sera aussi à New York, on rejoindra sur place devant le Nasdaq notre correspondante Elisabeth Guedel. On sera pratique, des valeurs pour investir dans l'espace au-delà de SpaceX, les meilleurs ETF dans l'espace aussi. Et puis il n'y a pas que SpaceX, on suit aussi la géopolitique bien sûr et le Moyen-Orient. Donald Trump maintient qu'un accord de paix est dealé, ça y est, avec l'Iran, ce que l'Iran ne confirme toujours pas. En tout cas, on a des indices qui progressent. Le CAC 40 gagne aujourd'hui 1,5% à 8324 points en ce moment, notre indice CAC 40. C'est l'IPO de SpaceX en direct, un décollage sous vos yeux jusqu'à 18h. BFM Bourse, bienvenue à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Alors dans cette demi-heure, vous allez découvrir aussi la face cachée de l'espace. La face cachée de l'espace en bourse, parce qu'on parle que de SpaceX qui prend toute la lumière, mais il y a l'autre côté. Et dans l'ombre de SpaceX, il y a plein d'autres valeurs. On en parlera notamment tout à l'heure dans Valeurs Ajoutées avec Thibaut François qui nous rejoindra pour Fastea Capital. Elle vient de nous rejoindre également à l'instant, Valentine de Maison, directrice générale de Mon Petit Placement. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Bienvenue, on parlera du potentiel de tout cela. Et essayez de distinguer le rêve de la réalité. Vous savez, c'est comme au réveil le matin, vous venez de vous réveiller, vous sortez tout juste d'un rêve, vous n'êtes pas sûr, c'est la réalité là dans laquelle je suis ou je suis encore dans le rêve. SpaceX, c'est la question qu'on se pose. L'investisseur qui choisit d'y mettre un pied ou son argent, il vit de rêve ou de réalité? C'est une question qu'on se posera. Antoine, au-delà de SpaceX, la tendance globale des marchés, on est bien, on est en hausse, le CAC 40 gagne 1,5% cet après-midi.
Oui, c'est surtout l'Europe qui en profite, hein, plus 1,47, on est à 8321 points pour l'indice vedette de la Bourse de Paris, plus 1,18 pour l'Euronext Tech Leaders, qui est légèrement en retrait, ça nous donne un Eurostock 50 en progression d'1,6%, la plus forte hausse du CAC 40 pour l'instant, elle est pour ArcelorMittal, qui gagne 5,14% à 60,16€. Société Générale, qui est la banque la plus exposée à l'introduction de SpaceX en France, est en train de gagner 5% à 72,55€. BNP Paribas plus 4,25 à 95,85€.
Il faut dire que la hausse de taux de la BCE, c'est pas mal pour le secteur bancaire. Ça aide aussi tout le secteur. D'autant qu'on se dit dans le marché qu'il y aura peut-être d'autres hausses à venir. Alors voilà, ça peut jouer.
Ouais, je sais pas ce qu'ils faisaient en fin d'après-midi hier, parce que c'était quand même hier, à la mi-journée, la hausse de taux de la BCE. Vrai, certaines choses mettent du temps à décanter. On est d'accord. Dassault Systèmes, plus forte baisse du CAC 40 à moins 5,4%, 17,22€. Ça va toujours pas très très bien pour le secteur des logiciels et affiliés, les fameux disruptés par l'IA. Et puis, le pétrole Brent est repassé sous les $90, 89,29. Et ça, évidemment, naturellement, ça pèse sur Total Energy, qui recule de 2,12% à 76,35.
Thierry Gauthier est avec nous pour GSD Gestion. Bonjour Thierry.
Bonjour Guillaume.
On est ravis de vous retrouver. Les premiers pas de SpaceX en bourse, on les vit, ça y est, donc New York Code depuis maintenant 36 minutes, une séance où il se passe pas grand-chose en fait. Quand on regarde les indices, le S&P gagne 0,1%, ouais, c'est très poussif, hein, et le Nasdaq ne fait rien. On n'a toujours pas le prix de SpaceX. Comment est-ce que techniquement d'ailleurs on peut expliquer le fait que oui, SpaceX fait ses premiers pas, mais le prix n'apparaît toujours pas? Quelle est l'explication de ça, Thierry?
Il y a peut-être des suspensions à la hausse, liées aux autorités de marché pour que tous les ordres soient rentrés dans la machine. Peut-être que c'est une opération historique, donc peut-être que c'est aussi historique sur le nombre et le volume d'ordres qui arrivent. En tout cas, sur le marché gris, hier soir, ça valait déjà $160. Donc on imagine que ça va bien ouvrir en hausse de 15 ou 20% quand ça va coter.
Certains disent quand il y a un pic d'IPO, un pic d'introduction en bourse, et c'est que le début, hein, puisque derrière on aura Anthropic, OpenAI, c'est signe que les marchés sont au sommet et qu'ils vont plonger. On l'a vu, c'est vrai, dans l'histoire. Vous regardez ça comment? Vous regardez ça comme une coïncidence ou effectivement le signe que les marchés sont peut-être au plus haut?
Ah, c'est vrai que quand il y a beaucoup d'offres de titres et puis des entrepreneurs qui viennent mettre en avant leurs actions pour les vendre, et c'est parce que eux-mêmes ils estiment qu'elles sont bien valorisées. Donc c'est vrai que c'est un premier signe, un peu voilà comme les insiders quand vous avez des patrons de sociétés qui vendent leurs titres ou qui viennent les amener en bourse pour les vendre au grand public ou à des institutionnels. Et c'est certain que c'est un signe que en tout cas c'est au moins correctement valorisé.
Comment investir dans l'espace au-delà de SpaceX? On a des valeurs, on a des acteurs de l'espace également ici en Europe. Alors comme ça, juste par curiosité, on va regarder, on va jeter un œil à Eutelsat. C'est en baisse, Eutelsat, notre champion français de 2%. Il y a SES aussi, toujours dans les satellites, qui est en baisse aussi. Vous voyez des valeurs spatiales européennes attirantes ou décidément, c'est pas ici que ça se passe, Thierry?
Non, SES Global ou Eutelsat, on n'est pas acheteur sur ces dossiers-là. Ça serait des comparables éventuellement de Starlink, hein, qui est une des parties de SpaceX. Il y a ArianeSpace aussi qui est sur le sujet des lanceurs, mais voilà, avec une technologie beaucoup moins aboutie que les Falcon 9 et les Falcon Heavy de SpaceX. Et puis ArianeSpace, c'est une toute petite partie seulement d'une joint venture entre Airbus et Safran. Donc il y a pas moyen de s'exposer à l'espace en allant sur d'autres véhicules.
Et quitte à y aller, vous seriez prêt à investir dans SpaceX? Du coup, autant aller directement droit au but, quoi. SpaceX ou pas? Quand vous voyez un ovni face à vous, vous prenez peur, vous fuyez, ou au contraire, vous avez envie d'aller à la rencontre de l'objet?
Pas à ce prix-là. Nous, à ce prix-là, on n'est pas acheteur. 1750 milliards de valo sur un dossier qui donc se paye plus de 100 fois le chiffre d'affaires, qui ne fait pas encore profit, qui va avoir des dépenses d'investissement pharaoniques à mener, une dépendance à un gros client unique qui est l'État américain qui doit peser plus de 20% du chiffre d'affaires, oui. Une dépendance aussi des fournisseurs uniques comme Nvidia pour les puces. C'est beaucoup, beaucoup de warning, une dépendance aussi à un homme clé, hein, qui est Elon Musk. Il fait tout, c'est un génie, c'est un inventeur, mais toute la valorisation de la société repose en grande partie sur lui. C'est compliqué pour nous d'acheter de façon sereine. Alors voilà, quand on achète ça, on achète le rêve, on achète Elon Musk. Et puis si ça marche, on se dit qu'on peut pas en être, on ne peut pas ne pas en être.
C'est ça.
Donc tout le monde y va quand même, mais nous sur ces niveaux-là, on n'y va pas. On attend et on espère qu'il y aura une petite baisse dans les mois à venir.
Mais ce que vous venez de dire souligne quand même, c'est vrai, l'inconfort dans lequel sont les gérants aujourd'hui, parce que investir dans SpaceX, ça mérite des explications. On imagine que les clients vont demander des explications. Attendez, pourquoi vous avez mis SpaceX? C'est Elon Musk, c'est hyper spéculatif. Mais on imagine que si l'histoire SpaceX fonctionne, les gérants qui auront choisi de pas y investir devront aussi justifier plus tard. C'est compliqué, c'est très inconfortable comme situation quand même, Thierry.
C'est ça, donc faut rester sur ses convictions, ses modèles de valorisation, et puis ses risques, ses faiblesses qu'il y a sur chacun des dossiers. Et pour nous, à ce prix-là, voilà, il y a plus de risques d'opportunités, même si le rêve, on a envie d'y croire. Et puis ça remet pas en question les grandes qualités d'inventeur, de génie d'Elon Musk. On n'est pas acheteur.
Question d'un auditeur, il s'appelle Claude, il nous écrit sur le Félix BFM Bourg. Je vous lis sa question. SpaceX aura-t-elle une influence sur le cours de Rolls-Royce Holdings, dont les moteurs? Oui, il faut des moteurs. Est-ce que Rolls-Royce peut profiter de SpaceX en bourse? C'est la question de cet auditeur.
Non, alors pour nous, il n'y a pas d'accord entre Rolls-Royce et SpaceX, hein, puisqu'ils fabriquent eux-mêmes leur moteur. avec une filiale dont j'ai oublié le nom, mais voilà. Et puis Rolls-Royce, c'est un titre qui a déjà triplé ou quadruplé là depuis 18 mois, donc on n'est pas acheteur non plus sur ce titre-là.
Allez, au-delà de SpaceX, on se rebranchera à SpaceX dans un instant, bien sûr. On retrouvera aussi Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York, devant le siège du Nasdaq dans une poignée de secondes. Mais avant ça, un mot sur Exail, parce qu'on est surpris, le titre Exail dans le secteur de la défense perd aujourd'hui 17%. C'est une des stars du secteur de la défense depuis quelques mois, Exail, et aujourd'hui moins 17%. Que se passe-t-il, Thierry ?
Eh ben, il y a eu un désaccord hier soir avec un des actionnaires très importants de Exail Holding, hein, qui possède 32% de Exail Holding. Et Exail Holding est détenu par Exail Technologies. Et donc, Exail Technologies doit trouver une solution pour d'ici septembre sortir cet actionnaire. Hein, c'est dans leur pacte d'associés. Et puis, bah, évidemment, ils ne sont pas d'accord sur la valorisation. Il y en a un qui veut valoriser un peu plus d'un milliard la société, quand l'autre est plutôt autour de 700 millions. Donc voilà, il y a 300 millions d'euros d'écart de valorisation entre les deux. Et ben écoutez, c'est rigolo parce que ces 300 millions d'euros d'écart-là, c'est exactement les 20% de baisse du titre Exail aujourd'hui. Donc le marché serait-il efficient ? C'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas, voilà, c'est la raison de la baisse du titre aujourd'hui.
Thierry Gauthier, GSD Gestion, merci beaucoup Thierry de nous avoir accompagnés en cette journée très particulière, historique pour le marché américain, mais pour les marchés au global. Hein. Le Nasdaq gagne 0,04%, quasi stable, donc le S&P fait pas grand-chose non plus. Et SpaceX, on attend toujours de connaître le prix de SpaceX, le prix de l'espace en bourse, ou de la plus grosse valeur spatiale cotée. Il y a tellement d'ordres à l'achat et à la vente, tellement de demandes et d'offres sur cette valeur que, pour l'instant, le prix n'arrive toujours pas à s'ajuster. C'est pas exceptionnel, hein. C'est un grand classique sur les grandes IPO, on n'est pas surpris, pour tout vous dire, on s'y attendait. On se disait, voilà, on va démarrer BFM Bourse avec l'ouverture de Wall Street et peut-être SpaceX, mais pas sûr. Eh ben oui, on doit attendre pour avoir le prix réel de SpaceX, ça durera peut-être quelques minutes encore, voire quelques heures. En tout cas, le prix de l'action sur l'introduction a été fixé à $135, ce qui valorise SpaceX à $1760. Incroyable quand même, c'est la plus grosse IPO de l'histoire. Valentine Demaison est avec nous donc pour en parler. Valentine, c'est une journée historique, directrice générale de Mon Petit Placement. Pourquoi SpaceX choisit-il d'entrer en bourse maintenant, d'ailleurs, c'est une question qu'on ne s'est pas encore posée.
Oui, et ben c'est une parfaite combinaison entre à la fois un stade de maturité financière et un timing de marché. Il faut savoir que pendant longtemps, SpaceX disait ne pas avoir besoin des marchés financiers pour soutenir sa croissance. Et puis finalement, ce qui a rebattu les cartes, c'est cette filiale XAI, donc la partie intelligence artificielle du groupe, qui est très consommatrice d'investissements, et notamment d'investissements en infrastructures. On le sait, aujourd'hui, SpaceX, c'est 60 milliards de dettes. Et donc, cette croissance, maintenant, elle doit être financée et c'est par les marchés financiers qu'on va chercher à le faire. Et je vous disais, une fenêtre de marché aussi très favorable puisqu'on a des investisseurs qui sont à la recherche d'actifs avec un fort potentiel de croissance et en plus quand même une visibilité de la thématique spatiale qui est en hausse depuis quelques mois, il faut bien le dire. Donc c'était le bon moment aussi pour SpaceX.
Oui, et puis l'anniversaire de Donald Trump dans deux jours, tout ça, voilà, il y a la grande histoire dans la petite histoire. C'est la plus grosse IPO de l'histoire. Qu'est-ce que ça représente vraiment ? Est-ce qu'on peut redonner l'échelle des choses aujourd'hui ?
Oui, bah c'est deux fois le record précédent, donc qui était tenu par Saudi Aramco en 2019. Je le rappelle, mais je crois qu'on en a largement parlé, c'est 1750 milliards de valorisation espérée, 75 milliards levés dans cette IPO.
Les particuliers à eux seuls auraient pu assurer la totalité de cette levée de fonds, c'est dingue.
Oui.
L'engouement auprès des particuliers SpaceX, ouais. Antoine.
Message du Nasdaq, SpaceX pour l'instant reste en statut de pre-launch. Donc, c'est marrant, ça ressemble vraiment au lancement d'une fusée. Il n'y a pas d'autre mot.
C'est les mêmes termes.
Pour l'instant, on ne lance pas encore. On a les moteurs chauds, on est prêt à décoller, mais on reste en réserve.
Ouais. Donc oui, au-delà des chiffres, ce qu'on regarde aussi, nous, c'est vraiment le signal que ça émet au marché. Ça nous fait aussi un petit peu penser à l'introduction en bourse de Netscape en 1995. Alors, ça remonte un peu, mais c'était vraiment une grosse introduction en bourse qui avait mis la lumière sur le secteur de l'Internet. Et donc, c'est vrai que SpaceX, c'est aussi le fleuron, la star qui permet de mettre un petit peu le regard des investisseurs sur cette thématique spatiale, puisque, on le disait, il y a aussi plein d'autres sociétés dans cet écosystème.
Et
qui nécessite aussi des investissements.
Et on va en parler de ces autres sociétés dans un instant, parce que l'espace, c'est large aussi en bourse. Elisabeth Guedel est avec nous également, notre correspondante sur place à New York, là où ça se passe quand même aujourd'hui, il faut qu'on y soit. L'espace, c'est quelle adresse? C'est Wall Street, c'est là-bas l'adresse de l'espace, là désormais en bourse. Elisabeth, on vous retrouve donc devant le Nasdaq où SpaceX s'introduit aujourd'hui. Alors on parle toujours d'Elon Musk, mais en réalité, la direction opérationnelle de SpaceX, c'est une femme qui pilote opérationnellement ce groupe, Elisabeth.
Eh oui, toujours, on dit toujours, hein, derrière un homme, il y a toujours une femme, même devant, puisque Gwynne Shotwell, c'est vraiment la numéro 2 de SpaceX, c'est vraiment l'indispensable du groupe. Alors, personne ne la connaît, hein, côté public. En revanche, dans le domaine aérospatial, tout le monde la connaît. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans l'ombre d'Elon Musk. C'est cette femme de 62 ans. Elle comprend Elon Musk. Elle a réussi à être fidèle, de rester dans son cercle. Elle est même surnommée la survivante, tellement c'est rare qu'Elon Musk reste en relation avec une même personne aussi longtemps. Elle est rentrée chez SpaceX en 2002. À l'époque, faut imaginer, hein, SpaceX était une petite start-up de 10 employés. Elle a réussi à grimper dans la direction. Elle a même évité la faillite au groupe. C'était en 2008. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait explosion sur explosion des lanceurs d'Elon Musk. Il avait réussi un lancement et donc elle a rebondi dessus pour décrocher un contrat avec la NASA $1,5 milliard, un contrat de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale. Donc elle est vraiment indispensable. On la surnomme aussi la glue, la colle, tellement elle est indispensable dans la cohésion de la stratégie du groupe. Elle comprend toutes les idées les plus folles d'Elon Musk. Elon Musk, il la rémunère bien, hein. Elle est payée en actions et en stock option, mais elle a reçu $86 millions l'an dernier. Eh bien là, si l'introduction en bourse fonctionne, marche bien, elle pourrait peser $3 milliards, hein, Gwynne Shotwell.
Effectivement, un nom qu'on va apprendre à découvrir aussi sur les marchés. Elle a réussi à trouver des clients pour SpaceX au moment où personne ne connaissait l'entreprise. En 2002, pas grand monde ne connaissait non plus Elon Musk. Valentine, c'est girl power. Non, mais vraiment, derrière un homme, il y a toujours une femme. Là, on en a la preuve. On parle toujours d'Elon Musk, mais c'est elle qui, en grande partie aussi, a fait SpaceX.
Surtout dans une industrie spatiale où on pourrait avoir tendance à croire que c'est très masculin. Donc oui, c'est vraiment le genre de profil que nous, on aime, qu'on regarde et qui nous inspire, évidemment.
Ça donne, voilà, une femme aux commandes, ça donne une vague dimension ESG aussi à tout ça, parce qu'il y a des enjeux actionnariaux quand même. On se demande, est-ce qu'il y a de la démocratie actionnariale chez SpaceX? C'est pas complètement sûr. Mais bon, voilà, quand même un peu plus que chez Tesla. On en parlait tout à l'heure avec Rolando Grandi, qui nous a soutenu, oui, que quand même SpaceX, c'est un peu plus démocratique pour les actionnaires que Tesla. Bon, voilà, toutes choses étant égales par ailleurs. Toujours pareil, hein, quand on se regarde, on fait peur, mais quand on se compare, on se rassure un peu. Elisabeth, on vous retrouvera à New York, bien sûr, devant le Nasdaq. Tout à l'heure, vous nous accompagnez en fil rouge tout au long de l'émission. Alors, non seulement, Elisabeth, vous nous raconterez l'ambiance, hein, on voit les images derrière vous, la foule, mais surtout aussi les enjeux politiques, parce qu'à quelques mois des midterms, on imagine, et à 2 jours de l'anniversaire de Donald Trump, que cette introduction en bourse de SpaceX porte aussi des enjeux politiques. Vous nous raconterez tout ça depuis New York. À tout à l'heure, Elisabeth. Bon, on entend Valentine beaucoup parler de SpaceX, mais donc l'industrie spatiale, c'est pas que SpaceX. Faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Il y a plein d'autres valeurs dans lesquelles, avec vos experts, chez Mon Petit Placement, vous investissez depuis bien longtemps. Est-ce qu'on peut présenter la surface de cette industrie spatiale en bourse?
Oui, bien sûr, SpaceX, c'est la star, mais on a 4 grandes familles dans l'écosystème spatial. Il y a déjà évidemment tout ce qui se passe dans l'espace, donc les fusées, les satellites, l'exploration spatiale. On a tout ce qui va se passer aussi entre la Terre et l'espace, donc on pense aux télécommunications satellitaires, à l'imagerie aussi de plus en plus. On a toutes les entreprises qui, depuis la Terre, profitent des données de l'espace, évidemment. Et puis, on a toutes les technologies transverses, donc l'IA embarquée, la cybersécurité, le cloud, la robotique. Donc finalement, l'écosystème spatial, il est très large et en fait, il nous expose à des secteurs auxquels on ne penserait pas. Le GPS dans votre voiture, la météo quand vous regardez quel temps il va faire ce week-end, et même les cartes bleues, finalement, sont liées à l'espace. Donc oui, c'est très profond.
Les cartes bancaires dépendent des infrastructures spatiales.
Exactement.
On n'aurait pas notre mode de vie, notre niveau de développement actuel sans l'espace. Et on s'en rend pas compte, évidemment, on vit pas dans l'espace, mais il est déjà là en nous. Pour un investisseur particulier qui veut profiter de cet engouement, comment on fait ? C'est quoi la recette, le mode d'emploi, les bons conseils et puis aussi les trucs dont il faut se méfier avant d'investir dans l'espace ?
Oui, alors pour le coup, on ne va pas se mentir. Je pense qu'aujourd'hui, pour nos investisseurs français, ça va être très compliqué d'obtenir des actions de SpaceX. Oui. Bon, évidemment, déjà, on en a parlé parce qu'il y a une surdemande très forte. Donc, il y a beaucoup plus de demandes d'achat que d'actions qui ont été émises. On le voit, ils n'arrivent même pas encore à fixer le prix. Et malgré le fait que l'entreprise a choisi de réserver 30% de cette levée à des investisseurs particuliers, c'est quand même plutôt sur les plateformes américaines que ça va se passer. Donc, il faudra être un petit peu patient pour nos investisseurs français. Après, on le disait tout à l'heure, avec le niveau de valorisation qui est celui de cette introduction en bourse, ça représente quand même 70 à 80 fois le chiffre d'affaires annuel. Donc, on pourrait aussi se poser la question, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui qu'il faudrait acheter des actions SpaceX ? Donc, du coup, si on est plutôt à la recherche d'une exposition à la thématique spatiale au sens large, nous, on a tendance soit à proposer d'autres actions, on en a parlé, EcoStar, Rocket Labs, soit même, en fait, des fonds diversifiés, comme celui de Rolando que vous avez reçu tout à l'heure. Ouais. Le fonds Itavera Space, par exemple, va vraiment aller chercher une diversification sur toute la thématique spatiale et permettre à des investisseurs de ne pas avoir besoin de faire du stock picking et du trading haute fréquence, tout en profitant du secteur. Mais comme toujours.
Oui, comme toujours.
5-10% max
voilà.
De son patrimoine.
Exactement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous m'avez devancé, effectivement, quelle part de son patrimoine dédiée à l'espace, 5 à 10%, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, ouais.
Oui.
C'est pour les convaincus.
Exactement, et j'ai envie de prendre les investisseurs qui croient à fond dans SpaceX à rebrousse-poil. Ceux d'entre vous qui choisissez de mettre plein de SpaceX en portefeuille ou avec du levier et tout, mais si vous y croyez vraiment, à quoi bon ? Vous mettez à peine 5% de votre portefeuille. Si vous pensez que ça va exploser, 5% de votre portefeuille, bah, ça va être pas mal déjà. Je trouve qu'il y a beaucoup de paradoxes quand on est un investisseur optimiste à vouloir faire du levier, alors que si on est vraiment optimiste, il n'y a pas besoin de levier. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mais après, c'est peut-être une vision un peu conservatrice. Si on prenait un angle un peu plus critique, voilà, aussi, sur cette IPO, quand même, son ampleur et la valorisation, qu'est-ce qu'on se dirait, là ? Est-ce que, effectivement, c'est un peu irrationnel de voir une telle valorisation ? Est-ce que vous voyez quand même suffisamment d'arguments pour la justifier ? Comment vous regardez ce qui se passe, là ? Est-ce qu'investir au prix actuel vous semble vraiment, en termes de timing, la meilleure idée ?
Bon, c'est vrai qu'à ce sujet de la valorisation, hein, on sait que derrière cette valorisation très importante, c'est la thèse IA qui prône. On le voit depuis le début de l'année, toutes les valeurs autour de l'IA, on profite de ce niveau de valorisation. Donc finalement, on achète derrière SpaceX une promesse IA dans un emballage spatial. Donc il faut voir toutes les questions que ça pose, et c'est plus large que sur le domaine spatial, de cette surconcentration un petit peu sur toute la thématique IA. Ensuite, il y a un sujet technique que vous avez un petit peu abordé tout à l'heure, c'est la gestion passive. SpaceX va intégrer le Nasdaq. Par définition, du coup, des centaines de milliards d'ETF vont venir à l'achat sur la valeur SpaceX. Ça va créer une demande qui forcément va faire gonfler le prix en étant complètement décorrélé des fondamentaux de l'entreprise.
Donc, exactement. Un ETF, il se fiche de la valorisation, il réplique un indice.
Exactement.
Voilà. Donc, c'est ce qui décorrèle de plus en plus les marchés de la valorisation, et voilà, ce qui fait qu'on se demande de plus en plus, mais où vont les marchés ? Mais c'est l'impact aussi des ETF.
Donc voilà, techniquement, cette gestion passive, le fait que SpaceX rentre très vite dans le Nasdaq et le fait que les ETF Nasdaq sont parmi les plus capitalisés va créer une demande artificielle qui questionne sur les fondamentaux économiques de la société. Il y a le sujet de la gouvernance aussi, vous en avez parlé. Elon Musk, il va conserver 79% du pouvoir de vote dans cette société. C'est une personnalité qu'on connaît imprévisible, donc qui là aussi pourrait nous surprendre. Et enfin, il y a quand même un changement de posture chez SpaceX. Je vous le disais, qui nous a pendant longtemps dit « je n'ai pas besoin des marchés financiers ». Bon, aujourd'hui, on a 60 milliards de dettes, on cherche à lever 75 milliards. Finalement, les marchés financiers viennent financer ce que, à mon avis, les investisseurs privés ne pouvaient plus absorber seuls.
Et exactement. Et l'un de nos experts nous disait tout à l'heure, c'est on met du venture capital dans la bourse. Là. C'est un pari sur l'avenir, mais l'avenir lointain tel que c'est du venture capital qu'on est en train de mettre dans la bourse. Et du private equity aussi, des logiques de private equity dans le marché traditionnel. Vous restez avec nous cet après-midi. Dans quelques minutes, on continuera d'explorer la tech hein, jusqu'à ses confins et l'espace dans Tech Stocks, bien sûr. Mais Thibaut François nous rejoint à son tour parce qu'il a trouvé, lui, Thibaut, une idée de valeur européenne pour investir dans l'espace. Bonjour Thibaut. Fastea Capital.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes dans votre navette spatiale, Thibaut, on l'entend, le son est bizarre. Vous nous entendez bien ou pas ?
Je vous entends très bien, mais je suis en plein espace là, actuellement.
Bon, bah, je ne sais pas si on vous envie ou si vous envie. Oui, il y a du vent dans l'espace, dites donc. Thibaut, donc vous avez trouvé une valeur européenne pour investir dans l'espace, alors là, il faut nous la présenter.
Bah écoutez, l'objectif c'est de vous présenter Eutelsat, effectivement des opérateurs européens, il y en a pas beaucoup, hein. On est d'accord, c'est vraiment, ça se passe du côté des États-Unis aujourd'hui. La partie européenne, c'est plutôt, on va dire, il y a peu d'acteurs. Et Eutelsat fait partie des acteurs aujourd'hui sur la partie européenne, notamment sur la partie satellite. Maintenant, l'objectif sur Eutelsat, c'est aujourd'hui, est-ce qu'ils sont capables, d'un point de vue opérationnel, de pouvoir repartir de zéro ou presque, parce qu'ils ont fait énormément d'augmentation de capital et énormément de financement sur les dernières semaines et sur les derniers mois. Et aujourd'hui, Eutelsat, l'objectif, c'est de savoir s'ils sont capables de pouvoir durer dans les prochaines années. C'est vrai que sur les dernières publications et en tout cas sur les dernières années, ils n'ont pas montré d'un point de vue opérationnel que ça se passait super bien. Mais effectivement, on pense entre guillemets en Europe que la souveraineté européenne va sortir. On va dire c'est une thématique en tout cas qui va sortir sur les prochaines années. Et aujourd'hui, Eutelsat fait partie des acteurs qui pourraient sortir par le haut d'un point de vue souveraineté opérationnelle. Le financement a été fait, la transformation opérationnelle n'est pas encore faite, mais ils sont en train de passer entre guillemets d'un modèle qui était très consommateur en termes de cash et de retrouver un EBITDA qui soit favorable. Donc aujourd'hui, Eutelsat fait partie des sujets européens qui pourraient sortir par le haut de cette transformation opérationnelle.
Vous misez aussi sur Eutelsat parce que vous vous dites que les États dans cette course à l'espace, les États européens vont devoir finir par y investir aussi de plus en plus d'argent. On voit de plus en plus d'investissements dans la transition énergétique, bien sûr, peu à peu dans l'intelligence artificielle. Vous dites que vous pensez que l'espace et un groupe comme Eutelsat aussi en profitera. Ça fait partie des arguments en faveur là.
Ben écoutez, oui, forcément, on pense que ça devrait bien se passer. Si vous voulez, d'un point de vue opérationnel, Eutelsat a plein de choses à montrer. Ils ont été en difficulté ces dernières années. Ils n'ont pas réussi à rentabiliser leurs investissements sur les dernières années. Mais en tout cas, le financement opérationnel a été réalisé. Ça, c'est plutôt bien. Ils ont réussi à lever de la dette. Ils ont réussi à faire une augmentation de capital extrêmement importante sur le dossier. Donc, d'un point de vue opérationnel, en tout cas d'un point de vue financier, ça se passe bien mieux. D'un point de vue opérationnel, il va falloir transformer. Mais la question centrale derrière, c'est est-ce que les acteurs européens vont continuer à miser sur la souveraineté opérationnelle et sur la souveraineté européenne? Et ça, c'est vraiment la question qui est extrêmement importante sur le dossier Eutelsat.
Eutelsat, donc, à suivre. Alors, même si le titre recule, ben oui, aujourd'hui, moins 2,6%. Merci beaucoup, Thibault. Oui, on aura trouvé une valeur européenne. Il y a aussi SES qui est coté, qui est dans l'espace, mais bon, voilà, qui est en train de vivre aussi une séance assez compliquée comme Eutelsat. Valentine, mon petit placement, vos clients, là, les particuliers, vous êtes vraiment au contact du retail français. Vous les sentez chauds sur SpaceX ou au contraire, pour le retail français, l'investisseur français, bon, c'est un truc un peu fou, un peu musquien et on évite.
Eh ben c'est ça. On voit qu'il y a un vrai intérêt pour la thématique spatiale globale et notamment comment ça peut changer notre vie sur Terre. En revanche, pour SpaceX en particulier, on tombe vite dans le débat pour ou contre Elon Musk. Donc globalement, on a à la fois des investisseurs qui sont convaincus et des investisseurs qui sont très réfractaires et c'est souvent lié à la personnalité d'Elon Musk.
Effectivement. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur BFM Business dans cette spéciale. Valentine de Maison, directrice générale de Mon Petit Placement. Bon retour Valentine. Le CAC 40 est en hausse d'1,5% parce que parallèlement il y a juste une petite actualité géopolitique, hein. Bon, Donald Trump annonce qu'il y a un deal avec l'Iran, mais c'est la 39e fois qu'il l'annonce. Mais c'est statistique, hein, c'est pas un chiffre. 39e fois qu'il annonce un deal avec l'Iran. Il y a une comptabilité très précise des annonces de Donald Trump en la matière. L'Iran, pour la 39e fois, ne confirme pas cet accord. Mais enfin, le CAC 40 gagne 1,5%. On s'en parle dans un instant et on remonte dans la navette spatiale pour parler de SpaceX. En suivant le prix aussi, on n'a toujours pas de prix pour SpaceX, mais c'est normal. Il y a tellement de volume à l'achat, à la vente, d'ordres face à l'offre que c'est très compliqué d'ajuster très précisément au millimètre le prix. On voit que les opérateurs boursiers sont en train de galérer là. Et on suit ça et on traque tout cela au cœur de BFM Bourse. À tout de suite.
BFM Bourse, Tech Stocks. Guillaume Sommerer.
C'est une journée historique pour la bourse, mais pour l'espace aussi. Eh oui, avec l'introduction en bourse de l'espace, en tout cas de la plus grosse valeur spatiale jamais cotée. Édition spéciale de BFM Bourse, bien sûr, et de Tech Stocks, 100% consacrée à ce décollage boursier. Est-ce qu'il faut attraper la fusée en vol ou éviter d'aller s'y brûler les doigts? Nos experts tech vont répondre. C'est notre promesse Tech Stocks. Christophe Pouchois est avec nous, la financière de l'échiquier. Bonjour Christophe.
Bonjour Guillaume.
Stéphane Déo aussi pour Eleva Capital. Bonjour Stéphane. On est ravis de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Et alors le loup dans la bergerie dans quelques minutes. Je sais que vous aimez bien investir valeur par valeur, faire du stock picking, la gestion active. On aura un représentant des ETF dans quelques minutes avec nous sur ce plateau. Ah oui, vous avez pas prévenu, voilà, mais ça fait partie aussi du marché des ETF. Comment investir dans l'espace? Ah oui, ça se crispe hein, là l'ambiance. Comment investir dans l'espace aussi à travers les ETF? Mais il faut tout pour faire un monde et on essaiera de répondre à cette question.
Avec un ETF espace.
Oui, aussi. Peut-être. Ça peut être utile, déjà. Exactement. Commencez par le début. Elon Musk remet du rêve dans la bourse. Non, mais déjà, on peut saluer ça. On attend toujours le prix, d'ailleurs, Antoine, de ce titre SpaceX. On l'a toujours pas.
Oui, pour l'instant, il est sur. Ouais, il est sur notre. En tout cas, sur notre système d'info. Il a plippé à 135, ça c'est bon. Il est toujours en stand-by du Nasdaq, mais les premières indications donnait du $170, peut-être même un peu plus, donc une hausse de 30% à peu près, si on fait la moyenne de tout ce qui a été un petit peu noté sur les plateformes alternatives.
Oui, vous confirmez, Christophe, c'est ce que vous voyez
en
passer
fait,
là.
En fait, pour vos auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec le process, en fait, il y a d'abord une phase de construction d'un carnet d'ordre pour une IPO. Tous les investisseurs institutionnels ou particuliers qui veulent participer donnent leurs ordres. Il y a une fourchette de prix qui est définie progressivement pendant l'IPO. Là, depuis le départ, on savait que c'était $135 et le prix n'a jamais changé. Et donc, aujourd'hui, les investisseurs qui ont réussi à avoir des titres dans le cadre de l'IPO, et nous, on est ravis parce que c'est aussi notre cas, ont eu une allocation sur un prix de $135. Et en fait, ensuite, il y a un processus d'auction donc qui commence à partir de 15h30, où là, tous les ordres d'achat, de vente sont reçus par les teneurs de livres en fait, de l'opération, qui appliquent un phénomène de stabilisation pour arriver au final au prix d'ouverture de l'introduction en bourse. Les fourchettes étaient 170-175, et là, on vient de recevoir un update en disant qu'on serait proche de 174.
D'accord, mais on ne sait pas encore complètement. Voilà,
c'est pas encore complètement.
Mais pourquoi ça ne se fait pas en une fraction de seconde? On est en 2026 quand même, on est à l'époque de SpaceX et ça prend encore tout ce temps.
Alors, en fait, la difficulté, c'est que les teneurs de livres, donc ceux qui font l'opération d'introduction en bourse, veulent éviter de trop fortes fluctuations du titre au moment de l'ouverture du titre.
Ah oui.
Et donc, il y a tout un phénomène de stabilisation qui existe, qui est fait en ce moment par Morgan Stanley, qui vise en fait à s'assurer qu'il n'y ait pas un déséquilibre trop fort au lancement même de l'opération, donc au moment de l'ouverture de prix. Une fois que le titre aura ouvert, là on aura peut-être davantage de volatilité. Mais le stabilisateur sera encore là pour faire attention aux soubresauts.
Oui. On connaissait l'adage boursier Sky is the limit. Maintenant ce sera Space is the limit. Hein. Clairement, c'est ça la mentalité Elon Musk. Vous pensez qu'avec SpaceX, justement, les marchés vont monter beaucoup plus haut ou qu'au contraire, SpaceX va nous montrer les limites de l'espace?
En fait, on aura sûrement un impact sur le marché en termes de sentiment de l'introduction en bourse de SpaceX. Donc, évidemment, comme pour toute introduction en bourse, on espère en fait que ça se passe bien pour la société, pour les investisseurs qui ont participé dans l'opération. Mais après, vu la taille de cette opération, on parle quand même maintenant de plus de 2 trillions, 2 000 milliards de dollars de capitalisation.
On devrait les franchir dès la première séance, dès aujourd'hui. Ça,
donc là, oui, si j'en crois les mathématiques, si on est à 25% au-dessus du prix d'introduction, on devrait être au-delà des 2 000 milliards de dollars.
Wow.
Donc, on est sur un niveau de capitalisation très élevé. C'est proche, en fait, de la taille de Tesla ou d'autres, en fait, en bourse. Et donc, là, il y aura un impact sur le marché si cette opération se passe mal. Pour une raison déjà assez simple, c'est que derrière SpaceX, on attend 2 très grosses introductions en bourse cette année, celle d'Anthropic et celle d'OpenAI. Et en fait, l'évolution de cette introduction en bourse va dicter ensuite ce qui va se passer dans le marché, notamment pour ces 2 grosses introductions en bourse, mais ça aura sûrement une répercussion sur les autres acteurs de la tech également.
Certains acteurs nous disent que SpaceX aura beau faire partie d'un coup des plus grandes capitalisations mondiales, ce sera une des valeurs américaines les moins suivies par les grandes banques. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes banques conseil de SpaceX. Il y a 23 banques américaines embarquées dans l'opération SpaceX là, qui pourront pas délivrer de conseils à l'achat ou à l'avancée. On dit souvent que Goldman Sachs est à l'achat sur telle valeur, relève son opinion et tout. Elles pourront pas jouer à ça sur SpaceX.
Pendant 40 jours.
D'accord.
En fait, la règle, c'est que si vous êtes un teneur de livres, que vous participez quel que soit votre rôle majeur ou mineur dans l'opération, vous n'avez pas le droit de publier de la recherche, et je crois que c'est 40 jours. Par contre, il y a des maisons qui n'ont pas été retenues pour l'introduction en bourse, comme Jefferies, comme d'autres, en fait, qui vont pouvoir, en fait, émettre une opinion. Et certains des fournisseurs avec qui on travaille, nous, ont déjà, en fait, donné une recommandation et un objectif de cours sur SpaceX.
Alors, Morgan Stanley a mis ses ascenseurs et ses tourniquets à son siège social de New York aux couleurs de SpaceX. Goldman Sachs a installé une fusée dans son hall d'accueil. Hein, on fait les choses en toute simplicité. Bank of America, la nuit, a transformé son siège en rampe de lancement de fusée avec un show lumineux qui nous fait confondre son immeuble avec une rampe de lancement de fusée. Voilà. Stéphane, on vous retrouve. Stéphane Déo pour Eleva Capital. Vous faites partie de ceux qui ont la foi. Enfin, ça relève de la foi, l'investissement dans SpaceX aujourd'hui, ou c'est de l'investissement vraiment rationnel?
Ouais, je pense qu'il y a deux choses à garder à l'esprit. Le premier point, c'est, comme vous l'avez dit, la demande pour le papier a été absolument phénoménale. Ils émettent à peu près 75 milliards. Les indications qu'on a eues, c'est que le retail, c'est-à-dire les particuliers américains, ont demandé 90 milliards. Donc il y a une chose qui est, alors il ne faut jamais dire sûr avec la bourse, mais qui est très très probable, c'est qu'effectivement vous ayez une augmentation très forte sur les premières heures de cotation. Donc ça, c'est vraiment du très court terme. Ensuite, SpaceX va être inclus dans les indices. Et donc, tous les, ben, vous parliez des ETF, tous ces gens qui investissent mécaniquement vont être obligés d'en racheter. Ça, c'est dans 15 jours, normalement. Donc, vous voyez, il y a une énorme demande insatisfaite de papier qui va arriver et qui va soutenir le cours. Donc ça, à court terme, c'est quasiment sûr. Pareil, il ne faut jamais dire jamais hein, avec la bourse, mais il y a vraiment une énorme demande qui va arriver. Après, la question, c'est plus à long terme. Est-ce que le business model est viable? Moi, j'ai plutôt tendance à faire partie des optimistes. Je vais juste vous donner un chiffre. Il y a 10 ans, pour envoyer un kilo dans l'espace, ça coûtait 20 000 dollars. Avec SpaceX, ça coûte 2 000 dollars. Donc, ce n'est plus du tout le même animal. Ça rend beaucoup de business models viables. Il y a toute une constellation, c'est le cas de le dire, de petites entreprises, enfin pas si petites que ça d'ailleurs, qui se créent pour exploiter des business models dans l'espace. Et donc on peut très bien imaginer que les valorisations qui paraissent complètement anormales à l'heure actuelle, parce que le chiffre d'affaires de SpaceX est de 15 milliards seulement, où il était entre 15 et 18 l'année dernière, ce chiffre d'affaires peut exploser dans les années qui viennent. Mais vous voyez, il y a deux temporalités. Il y a le court terme avec des demandes qui ont été insatisfaites parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été servies assez, les Européens en particulier. Les indications qu'on a eues, c'est qu'il y a uniquement 10% du papier qui a été alloué aux internationaux. Et puis après, vous avez une question plus de long terme qui est est-ce que ce business model est viable? Et moi, je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste sur
oui.
ce...
Mais à quelle échéance? À échéance de 300 ans? Pour dans 300 ans, le cours arrivera à son juste prix, ou pour dans 3 ans?
Non, je vais vous donner juste un exemple. Vous parliez des grandes banques d'affaires qui ne peuvent pas donner de recommandations. C'était effectivement un problème parce que depuis 2-3 mois, on leur pose des questions. Ils voulaient répondre quasiment à rien. Mais Goldman dit par exemple qu'en 2030, vous auriez 300 milliards de chiffre d'affaires. Donc vous faites x20 d'ici à 2030. 300 milliards. On compare souvent SpaceX à Tesla. Je pense qu'il y a une grosse différence. C'est que Tesla, c'est des voitures, des producteurs de voitures, vous en avez des dizaines dans le monde. Des lanceurs de roquettes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, les marges ne seront pas du tout les mêmes. Donc, si vous avez effectivement 300 milliards, alors Elon Musk donne des chiffres beaucoup plus élevés, mais bon, il a toujours tendance un petit peu à gonfler les chiffres. 300 milliards de chiffre d'affaires, si vous avez des profits qui représentent un tiers du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas du tout aberrant parce que les marges seront certainement très élevées. Vous voyez, vous faites 100 milliards de chiffre d'affaires, vous êtes valorisé 15 fois, ce n'est pas du tout excessif. Pour moi, ça ressemble beaucoup à Nvidia. Vous savez, il y a 3-4 ans, tout le monde me disait Nvidia, c'est une bulle, les valorisations sont absurdes, etc., etc. Et en fait, non, le marché faisait le pari que les bénéfices d'Nvidia allaient progresser très très vite, et ça a été le cas. Et donc, les valorisations d'Nvidia maintenant sont tout à fait raisonnables.
Christophe, vous n'êtes pas prononcé encore pour nous dire si vous étiez optimiste justement sur le potentiel de SpaceX ou si le titre était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Pour vous, c'est un Tesla, un profil à la Tesla en bourse ou plutôt un profil type Nvidia ?
En fait, ce qu'on observe, nous, c'est que la création de revenus chez SpaceX est quand même assez rapide. Il faut quand même rappeler quelque chose qui est important. Quand on regarde le chiffre d'affaires de Tesla, il y a toute une partie du chiffre d'affaires qui n'est pas affichée. C'est-à-dire que l'activité lanceur, c'est-à-dire quand ils lancent une fusée pour la constellation Starlink, ils ne facturent pas de chiffre d'affaires. Ils n'ont pas le droit de facturer la division d'à côté. Donc en fait, le chiffre d'affaires de la partie lanceur, elle est artificiellement basse parce qu'une très large majorité des lancements sont faits pour Starlink. Lorsqu'on aura un déploiement de satellites data center en orbite, ça sera exactement la même chose. Tous les lancements pour cette activité qui sera interne à SpaceX ne sera pas reconnu en chiffre d'affaires dans la partie lancement. Wow. C'est un phénomène assez compliqué de capitalisation des coûts dans la division qui a bénéficié du lancement, donc Starlink pour le moment, dans le futur les data centers dans l'espace. Donc c'est aussi difficile de bien mesurer la création de chiffre d'affaires chez SpaceX. Je vais donner aussi un autre chiffre, c'est 11 milliards. 11 milliards, c'est la taille du contrat annuel que SpaceX a signé vendredi dernier de manière très opportune avec son actionnaire minoritaire Alphabet, qui du coup ajoute 11 milliards de chiffre d'affaires cette année pour SpaceX. Et donc les estimations que nous on regarde, c'est potentiellement un chiffre d'affaires dès cette année qui pourrait être entre 30 et 40 milliards de dollars. Donc là, on n'est plus du tout sur le même niveau de valorisation que ce que l'on voit en regardant les chiffres 2025. Et si on en croit les perspectives de croissance que l'on va observer en fait dans les années à venir, c'est vrai que, comme Stéphane le disait, la valorisation doit être réfléchie en termes plus faibles.
Oui, et là, on parle que des lanceurs et de Starlink. Alors oui, il y a cet accord avec Google. Il y a Anthropic aussi qui a signé un accord et qui va rapporter, je ne sais pas combien, un milliard ou plus chaque année à SpaceX.
En fait, ce qui est important, c'est que SpaceX a eu énormément de coûts sur la partie xAI, donc cette activité IA créée par Elon Musk, qu'ils ont fusionné dans SpaceX cette année. Donc, a eu beaucoup de coûts pour créer des data centers de taille massive, Colossus 1, Colossus 2. Et en fait, une grosse partie de ces data centers était censé permettre le fonctionnement de leur modèle Grok. Sauf que Grok est aujourd'hui moins utilisé, donc ils ont toute une puissance de calcul disponible, qu'ils sont déjà en train d'amortir, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des coûts de dépréciation, mais ils n'avaient pas de revenus vraiment en face. Là, en louant à Anthropic, en louant à Alphabet leur puissance de calcul disponible, ils créent instantanément du chiffre d'affaires qui permet d'amortir ces charges de dépréciation et les coûts qu'ils ont eus.
Mais quand même, quand Elon Musk dit notre marché adressable, c'est 28 000 milliards de dollars. 28 000 milliards de dollars. Alors en intégrant les data centers dans l'espace, hein, l'IA spatiale et tout, en imaginant que toutes ces briques qui composent SpaceX interagissent de plus en plus entre elles et créent une grande centrifugeuse spatiale. Hein, c'est un peu ça, un univers dans l'univers, quoi, SpaceX. Un univers à soi seul, tout un écosystème. 28 000 milliards de dollars de marché adressable. C'est fantaisiste.
On avait eu l'occasion d'en discuter sur ces 28 000 milliards. Oui. En fait, il y en a à peu près 340 sur la partie lancement. Donc, ce n'est pas beaucoup, 340 milliards sur 28 500.
Ah non.
La partie connectivity, c'est à peu près 1600 milliards. Donc là aussi, c'est à peine 5%. Et donc, l'opportunité qui est estimée, globale, à moyen terme, on parle peut-être de 2040-2050, c'est 23 milliards, voire même plus, en fait, sur la partie IA. Une partie, c'est l'infrastructure IA. Donc, les data centers sur Terre, ça, ils ont déjà commencé à les créer. Ensuite, il y aura les data centers dans l'espace. Et là, il y a des prévisions du management. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais souvent, on donne les chiffres, les indiscrets, mais en fait, on a en fait des rumeurs comme quoi Elon Musk viserait d'avoir 80 ou à 100 gigawatts minimum dans l'espace de capacité de calcul, ce qui est énorme.
On ne se rend pas trop compte, ça représente quoi, 80 à 100 gigawatts?
Sur l'année écoulée, là, Oracle a déployé 1 gigawatt sur Terre. Voilà. Donc Microsoft dit qu'ils peuvent ajouter 1 gigawatt par trimestre.
Et donc là, il dit pas n'importe quoi, Elon Musk. De même, il dit qu'il y aura 1 million d'humains dans quelques années sur Mars. Enfin, est-ce qu'on est obligé de le croire? C'est tellement énorme qu'on est obligé de le croire.
Tout repose sur Starship. Donc il faut d'abord arriver à développer la troisième version de Starship, puis la quatrième version qui devrait monter à 200 tonnes. Après, peut-être qu'on aura des fusées de plus en plus grosses également. C'est le prérequis pour que tout ce cas d'investissement fonctionne.
Stéphane, alors on vous retrouve, toujours pas de prix hein, pour SpaceX, on suit, on traque, hein, pour vous qui nous suivez en direct, il est 16h47, toujours pas de prix, voilà, à l'instant, il y a tellement d'offres, tellement de demandes, surtout autour de SpaceX, qu'il est très compliqué d'ajuster, vous nous avez expliqué les mécanismes parfaitement il y a quelques instants, Christophe, on suit tout cela, et dès que le premier prix de SpaceX apparaîtra, on vous en fera part, Antoine.
Juste à noter que le titre Tesla, qui était plutôt orienté en hausse hein, depuis le début de la séance, vient de passer dans le rouge, il perd en ce moment 1,6%, 392,74 €, alors il n'y a pas de lien explicite et direct entre les deux mouvements et l'attente de la première cotation de SpaceX. Mais enfin voilà, ça se donne entre la poire et le fromage.
Et vous nous disiez Virgin Galactic, alors on est dans l'espace aussi, avait ouvert en hausse de
40%, et là il en perd tout autant. Donc, mais c'est un titre archi volatile, c'est une penny stock.
Allez-y Christophe. Non, allez-y.
Juste un petit mot sur Tesla et sur la performance. Tout à l'heure, je vous en avais parlé, je crois, de Telsat ou de SES.
Oui, Telsat et SES reculent.
Les valeurs spatiales aujourd'hui baissent fortement. Et en fait, ce qui est commun entre tous ces titres-là, c'est leurs investisseurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui sont aussi peut-être en train d'arbitrer certains de leurs titres spatiaux pour acheter, se positionner dans cette enchère pour acheter des titres SpaceX, ce n'est pas à exclure. Peut-être que d'autres aussi attendaient une hausse du titre beaucoup plus forte. On se serait dit peut-être qu'on aurait pu attendre une hausse de 50, 100% du titre de SpaceX. Donc certains sont un petit peu déçus sur sur la hausse attendue pour le moment.
Oh bah oui, seulement 30% de hausse attendue. Oh, c'est tellement triste. Est-ce que c'est un crash test aussi pour l'ESG, Stéphane? Parce que SpaceX, c'est de l'espace. Il faut quand même beaucoup d'énergie pour tout ça. C'est pas forcément très bon pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors voilà, là on est en train de confronter deux logiques. On a passé des années à mettre en avant l'ESG, puis maintenant c'est l'hypercroissance, la tech et l'innovation. Est-ce que si cette introduction en bourse de SpaceX est un succès, ce sera pour l'ESG un camouflet?
Non, je ne pense pas. Mais vous parliez de 80 gigas. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, le parc nucléaire français c'est 65 gigawatts, si mes souvenirs sont bons. Donc il veut envoyer dans l'espace plus que l'équivalent du parc nucléaire français. Au contraire, la raison pour laquelle les data centers dans l'espace sont plausibles ou crédibles dans un avenir pas très lointain, c'est-à-dire à horizon de 4-5 ans, c'est aussi que ça consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Les deux tiers de l'énergie d'un data center, c'est le refroidissement. C'est des frigos pour refroidir les puces. Donc en fait, quand vous êtes dans l'espace, ça se refroidit par radiation, et donc ça permet en fait, de consommer beaucoup moins d'énergie. Donc, paradoxalement, moi, je ne vois pas d'ambiguïté avec l'ESG. C'est plutôt quelque chose qui va réduire la consommation sur Terre, donc réduire l'empreinte carbone. Donc, de ce point de vue-là, au moins, alors après, il y a beaucoup d'autres aspects, évidemment, mais de ce point de vue-là, au moins, je ne vois pas l'incohérence avec la partie ESG.
Vous nous direz dans un instant, l'un et l'autre, quel pourcentage de son portefeuille les particuliers peuvent mettre sur l'espace en général et pourquoi pas SpaceX. Juste pour vous signaler aussi qu'on a des premiers objectifs de cours quand même fixés sur SpaceX. C'est Berenberg qui vise $166. Voilà, $170 sur ce titre SpaceX. Voilà, dont on attend toujours de voir le prix. Il ne s'affiche pas encore. Alors évidemment, l'espace, c'est des valeurs, c'est de la gestion active et ça peut être aussi de l'investissement à travers des ETF. Et là, on fait entrer le taureau dans l'arène, messieurs, parce que vous adorez investir à travers les valeurs, mais les ETF aussi, ça permet d'investir dans l'espace. Thierry de Cherizet nous rejoint. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bienvenue, responsable de la distribution ETF pour Invesco. Alors tout à l'heure, je vous demanderai d'ailleurs si investir dans l'espace à travers les ETF, c'est une bonne façon de le faire en se bouchant le nez. Je vous poserai la question. Je vous laisse vous y préparer. Mais d'abord, priorité au direct, Antoine.
$172, ça y est, ça commence à coter pour le titre SpaceX qui fait ses premières cotations là depuis quelques secondes. Donc c'est une hausse de plus de 30% avec un prix d'appel à $135.
Donc $172 SpaceX.
172, c'est le premier coup, oui.
Christophe, première réaction.
Et c'est déjà une bonne nouvelle que le cours soit au-dessus du prix d'introduction en bourse. C'est généralement la première chose qu'on regarde. Il y a eu énormément de doutes sur cette introduction en bourse. On a beaucoup parlé encore récemment sur ce plateau de la valorisation. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça montre en fait qu'il y a un engouement des investisseurs aussi bien individuels que institutionnels pour cette opération.
Stéphane, première réaction donc à ce prix. Ça y est, on a le prix de SpaceX sous nos yeux en live et en direct. $172 alors qu'il était fixé à 135. C'est une hausse de 30%.
Ben, c'est très bien. Nous, on a été servis, alors comme des Européens, c'est-à-dire pas énormément, malheureusement. Mais oui, on s'attendait. Enfin, les prévisions il y a quelques jours, c'était entre 30 et 50 %. Alors, il y a quelques jours, c'était très très flou. Donc, les 30%, ben, c'est très très bien. Et ça veut dire qu'il y a un vrai engouement.
On continue de suivre tout ça. Bien sûr, Antoine traque toutes les dernières infos, les dernières datas autour de SpaceX, dans lequel bah, vous pouvez aussi investir. Encore une fois, franchement, on ne conseille pas spécialement d'y investir. On ne déconseille pas non plus. Mais il y a plein de façons de le faire si vous voulez vous lancer, et notamment les ETF. Donc, Thibault Cerisé est avec nous. Ça marche historiquement, l'espace dans les ETF, ou c'est plutôt un bide?
Oui, les ETF dans l'espace, ou plutôt l'espace dans les ETF. Ouais. Ça marche, en tout cas, depuis le début de l'année. Quand on regarde les performances absolues, on est sur du plus 30, plus 50% suivant les ETF. Donc ça, c'est très important de regarder à l'intérieur. Mais donc, des performances dynamiques. Bon, il faut bien comprendre que c'est quand même un secteur jeune, où on a beaucoup d'entreprises en phase d'investissement, donc une forte volatilité et un cycle assez irrégulier. Des phases d'accélération, des phases de consolidation. Mmh. Et bon, effectivement, c'est là où les ETF peuvent jouer un rôle en captant une performance globale plutôt que d'être sur un secteur, oui, sur un acteur particulier.
Mais alors maintenant, enfin, c'est le paquebot dans la piscine, là, quand même. C'est le paquebot qui arrive dans la piscine, ce titre SpaceX. Est-ce qu'il va prendre toute la place dans les ETF espace?
Il peut prendre toute la place parce que, déjà, il faut relativiser. On a affaire à une introduction, comme vous la traitez, formidable et assez phénoménale. Mais ça a déjà existé, d'abord, d'une part. Et d'autre part, vous avez des règles très propres et très fixes, des indices qui permettent d'avoir une limitation des poids, qui sont régulés à l'avance, et une mise dans les indices progressive. Donc Nasdaq va le faire dans les jours qui suivent, mais pour vous donner un ordre d'idée, dans l'indice Nasdaq, ça va représenter à peu près 1% du poids de l'indice. Donc des choses tout à fait gérables.
Oui, et investir dans les ETF espace, est-ce que c'est une façon de se décorréler de... des enjeux terrestres, quoi, la géopolitique, nos bas enjeux, quoi. Est-ce que c'est une façon de regarder au-delà, de prendre un peu de hauteur, ou au contraire, ça reste corrélé aussi au reste?
Ça reste corrélé aux valorisations de marché, de toute façon. Ouais. Simplement, l'ETF va vous permettre de lisser les risques. On est sur une thématique où il y a une diversité des acteurs extrêmement importante entre des jeunes startups innovantes et des acteurs établis depuis long terme. Si on pense au secteur de la défense, par exemple, qui sont intégrés dans ces ETF d'espace. Mmh. Donc, ça va vous permettre de lisser vos risques avec un ETF. Évidemment, plus vous choisirez un ETF avec un indice resserré, plus vous allez avoir peu de valeur, mm-hmm, et plus vous allez choisir un indice assez large, et plus votre risque sera réparti suivant tous les acteurs.
Mais un investisseur qui choisit aujourd'hui, en écoutant cette spéciale SpaceX, en regardant les premiers pas de SpaceX en bourse, un investisseur qui choisira d'y aller à travers les ETF, est-ce que c'est une façon pour lui de se dire « oui, j'y vais, mais je me bouche le nez ». J'y vais, mais j'ai peur, comme une célèbre réplique dans un film.
C'est une façon de participer à la croissance du secteur sans mettre tous ses œufs sur SpaceX. Et puis attention, pour ceux qui nous écoutent, SpaceX ne sera pas inclus dans tous les ETF d'espace immédiatement. Ça va prendre quelques semaines, quelques mois. Dans certains gros indices, il va être intégré d'ici quelques jours. D'autres, comme le S&P, pas avant un an. Donc il y a différentes règles indicielles qu'il faut avoir à l'esprit aussi.
Christophe, le poids de SpaceX, on est en train d'en parler, là, c'est un paquebot qui arrive dans la piscine, compliqué. Mais il n'y a pas que SpaceX, il y a d'autres valeurs pour investir dans l'espace. C'est quoi vos chouchous là, en ce moment, à la financière de l'échiquier, au-delà de SpaceX?
Alors, j'ai pas trop le droit de donner des recommandations.
Non, aucune recommandation.
Alors, mais je peux vous parler en fait des titres, alors y compris qui existent dans des ETF, mais qui sont aussi des points importants en fait dans nos positions. Donc évidemment, on s'intéresse beaucoup, nous, à toute l'activité de lanceurs, donc les lanceurs de fusées. Évidemment, il y a Rocket Lab, il y a Firefly aux US, il y a Avio aussi en Europe, faut pas oublier, on a un petit lanceur en Europe, filiale Leonardo, disons filiale, Leonardo étant l'actionnaire minoritaire, donc on a des pure players sur les lanceurs de fusées.
Avio, c'est coté en bourse, c'est une valeur.
C'est coté en Italie.
Ah, d'accord.
Une petite capitale.
Ils sont forts, les Italiens. Non, mais ils sont très forts dans plein de domaines, quand même.
Et donc, il y a des fabricants de satellites. Donc, on en a en Europe, on en a aussi beaucoup en Amérique du Nord. Nous, on a beaucoup d'opérateurs de satellites au Japon aussi, dans notre fonds. La défense spatiale est aussi une partie importante. C'est vrai que plus récemment, il y a eu des performances qui ont été peut-être un petit peu plus difficiles aux États-Unis. Il y a eu pas mal de profits sur la défense. On attend les démocrates qui vont sûrement reprendre le contrôle de la Chambre des représentants en novembre. Mais sur le spatial, il y a beaucoup de sociétés, surtout de petites et moyennes capitalisations, qui sont très intéressantes. Elles sont en train de grossir très vite. Et donc, c'est des sociétés que vous pouvez retrouver dans notre fonds,
oui.
Space, et aussi dans certains ETF.
Stéphane, est-ce qu'il y a là-dessus, sur cette thématique spatiale, sur SpaceX, sur les autres valeurs au-delà de SpaceX, des points que vous voulez ajouter avant de rendre l'antenne et d'entrer dans un instant dans la dernière demi-heure de cette séance en Europe?
Je vais me répéter, je vous en avais déjà parlé, nous on aime beaucoup Planet Lab, c'est de l'imagerie spatiale. En fait, ils ont une banque de données d'images qui est absolument énorme et ils font ça depuis plusieurs années. Donc en fait, ils ajoutent une couche d'IA pour analyser toutes ces images. Il n'y a pas d'équivalent et plus on attend, plus la banque de données est importante et donc ils vont être extrêmement difficiles à déloger. C'est une société en pleine croissance, nous on aime beaucoup. Donc Planet Lab.
Planet Lab, donc voilà, parmi ces valeurs, cette constellation, on va le dire comme ça, cette galaxie de valeurs investissables dans l'espace. Sur bfmbourse.com, un article consacré aussi quand même aux enjeux de gouvernance, parce que SpaceX, c'est tout sauf un exemple de démocratie actionnariale, et ça pourrait inspirer les prochaines IPO, celles d'Anthropic et d'OpenAI, toutes ces entreprises avec une superstar à leur tête, vous savez, un homme au grand charisme type Elon Musk. Et bien, est-ce qu'on pourrait avoir le même déni de démocratie pour les prochaines IPO? SpaceX, déjà, c'est compliqué hein, pour les actionnaires, ils ont le droit de financer SpaceX, il n'y a pas de problème, mais contester la stratégie, c'est plus compliqué. Elon Musk ne pourra pas être évincé ni limogé. Il a plus de 80% des droits de vote. Très compliqué. L'article est disponible sur bfmbourse.com. Antoine.
Oui.
On est ensemble. Dans un instant, on entrera dans la dernière demi-heure de cette séance.
Oui, voilà. On est toujours dans l'attente des premières cotations de SpaceX. Il y a beaucoup d'informations qui partent un petit peu très très vite. Et effectivement, on est plutôt du côté des $166 maintenant en pré-ouverture, parce que le titre cash, lui, n'a toujours pas commencé les cotations.
Très bien. Ouais. Merci beaucoup à toute la team. Stéphane Déo, Léva Capital, Christophe Pouchois, la financière de l'échiquier.
Merci, Guillaume.
Avec nous aussi. Ça va, Christophe? On a à peu près tout dit, vous
voulez 166, ouais. Voilà, je retiens, j'aurais préféré 175, mais.
Ouais. Mais on est en pré-ouvre encore, hein. On est en pré-ouverture, là. Les choses s'affichent, mais encore en pré-ouverture pour l'instant. Dans un instant, on entre dans la dernière demi-heure de cette émission et de cette séance. Un grand merci aussi à Thibaut Cherizet pour Invesco qui nous accompagnait sur la partie ETF. Le CAC, lui, gagne 1,8%. Oui, parce qu'on l'oublierait presque, mais Donald Trump nous annonce à nouveau un accord de paix avec l'Iran pour la 39e fois. Il y a une comptabilité très précise des annonces de Donald Trump et c'est la 39e fois qu'il annonce un accord avec l'Iran. C'est aussi la 39e fois que l'Iran dit ne pas avoir signé cet accord. Bon, le CAC gagne quand même 1,8%. On s'en parle dans un instant. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.